L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Nous commencerons par nous intéresser, puisque comme vous le savez, il n'est pas question un jour d'élection de parler de politique intérieure. Nous commencerons par nous intéresser au référendum en Turquie. Les électeurs turcs ont approuvé dimanche dernier à 51,4% le projet de révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du chef de l'État. La nouvelle loi fondamentale confère au président de la République le pouvoir de nommer et de destituer les magistrats, un droit de veto sur les lois votées par le Parlement, le droit de rester chef de parti et consacre la disparition du poste de Premier ministre. La réforme doit entrer en vigueur en 2019, à l'occasion des prochaines élections présidentielles et législatives, désormais concomitantes. Elle permet au président Recep Tayyip Erdogan d'envisager de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Le scrutin révèle une société divisée entre les grandes villes et les régions côtières, qui ont voté contre la réforme, et une Turquie rurale qui a soutenu le projet. Les électeurs d'Istanbul et d'Ankara ont voté respectivement à 51,4% et à 51,2% contre le texte, score qui tranche avec le soutien traditionnel de ces villes au parti au pouvoir, l'AKP. Le parti laïque CHP a demandé sans succès un recompte des voix et le HDP pro-kurde l'annulation du vote sur des soupçons de manipulation. Le Haut Conseil électoral a décidé de valider le jour de l'élection des bulletins dépourvus du tampon officiel des bureaux de vote. Ces deux partis d'opposition ont également dénoncé un scrutin organisé dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis la tentative de putsch de juillet 2016. Cette situation a permis à l'exécutif d'ordonner la mise en détention d'opposants et de dissoudre de nombreux médias indépendants. Des observateurs de l'OSCE et du Conseil de l'Europe ont estimé que le vote s'est tenu dans un cadre en deçà des normes internationales démocratiques et que, je cite, « les deux camps en campagne n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités ». Le président Erdogan s'est félicité du début d'une nouvelle ère pour la Turquie et il a rejeté les conclusions des observateurs internationaux. Il les a appelés à rester à leur place et il a affirmé qu'il ne tiendrait compte d'aucun rapport préparé par ses institutions. Il a évoqué l'organisation d'un référendum sur la question du rétablissement de la peine de mort et de l'adhésion à l'Union européenne qui, a-t-il déclaré, fait attendre la Turquie à sa porte depuis 54 ans. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé Ankara à rechercher le consensus national le plus large possible au vu du résultat serré du référendum et des implications profondes des amendements constitutionnels. Il a invité les autorités turques à mener une enquête transparente sur les soupçons d'irrégularité. Le président américain Donald Trump a félicité son homologue turc et évoqué l'avenir de leur coopération sur le dossier syrien. Les deux dirigeants ont prévu de se rencontrer en mai, avant le sommet de l'OTAN organisé à Bruxelles. Sur cette question, Nicole Niesotto.
Oui, alors je crois que d'une certaine façon, M. Erdogan a raison, le référendum, c'est le début d'une nouvelle ère. Mais c'est une nouvelle ère pour la Turquie, pour l'Europe, pour l'ensemble de l'Occident, mais c'est une nouvelle ère que l'on peut redouter totalement négative. Alors, moi, je voudrais d'abord essayer de comprendre cette montée de la dictature en Turquie, qui est quand même l'histoire d'un échec annoncé. Et je crois qu'il faut s'interroger non seulement sur les raisons turques de ce durcissement du régime, mais aussi sur les responsabilités des Occidentaux dans cette évolution de la Turquie. Quand on regarde 15 ans en arrière, les 15 ans de pouvoir de Monsieur Erdogan se traduisent par une régression à la fois politique et économique de la Turquie tout à fait spectaculaire. Quand il arrive au pouvoir comme Premier ministre en 2002, quand les négociations d'adhésion commencent avec l'Union européenne en 2005, souvenez-vous à l'époque, donc il y a à peine 15 ans, Erdogan, c'est la preuve peut-être qu'il peut y avoir une compatibilité entre le monde musulman et la démocratie parlementaire à l'européenne. C'est la preuve que la modernité du monde musulman est possible dans un cadre européen, pas forcément d'ailleurs dans l'adhésion, mais dans un cadre européen, et qu'il y a là quelque chose de totalement inouï que les Européens doivent saisir au vol pour essayer de le conforter. Et même si à l'époque les Européens sont divisés sur l'entrée de la Turquie, on est dans... L'ensemble du monde occidental veut croire qu'Erdogan représente quelque chose de différent dans le monde musulman. 15 ans après, il faut bien reconnaître que la Turquie est aujourd'hui plutôt le symbole de la régression démocratique du monde européen et le symbole de l'autoritarisme traditionnel du monde musulman. Et donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on a laissé faire ça d'une certaine façon. Encore une fois, mon but n'est pas du tout de dédouaner Erdogan de ses responsabilités quant à la récession dans son pays. Mais il faut quand même s'interroger sur ce qui s'est passé dans ces 15 ans. Et je crois qu'il y a deux explications extérieures, entre guillemets, qu'il faut prendre en compte. D'abord, évidemment, l'évolution stratégique du Moyen-Orient. Il se trouve que depuis 2003, la dynamique de décomposition à la frontière sud de la Turquie est totale en Syrie, en Irak, en Libye et ensuite avec l'apparition de Daesh. Que le rêve d'Erdogan, qu'il affirmait en 2005 d'être un pont entre l'Occident et l'Orient, d'être une espèce de médiateur sur le conflit israélo-palestinien, que ce rêve est quand même difficile contre l'Orient explose. Donc ça, on peut le comprendre, on peut comprendre. Que la démocratisation d'un pays musulman est difficile quand l'ensemble du monde musulman est en guerre ouverte entre chiites et sunnites. Et puis l'affaire kurde, qui ont été et qui sont toujours les grands alliés des États-Unis aussi bien en Irak que maintenant en Syrie, peut-être a créé quelques problèmes. Je ne suis pas sûre que les Américains aient pris en compte le contexte turc dans leur volonté de faire des Kurdes le soutien contre Daesh. Mais ça, c'est la première raison, une dégradation de sa frontière sud qu'il n'a pas souhaité, mais dont il est obligé de tenir compte. La deuxième raison, je crois, c'est la pusillanimité des Européens dans les négociations d'adhésion. Et là, je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses. Les négociations d'adhésion entre l'Union européenne et la Turquie, c'est l'exemple même des ambiguïtés destructrices dans les politiques de l'Union européenne. Il y a des ambiguïtés constructives qui nous permettent d'avancer en laissant de côté nos divergences. Il y a des ambiguïtés destructives et celle-ci en a été une depuis 30 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit depuis 50 ans, c'est depuis 30 ans. Les Européens sont divisés sur cette question qu'ils n'ont jamais voulu trancher, je rappelle. La Turquie est candidate en 87. On attend 12 ans pour lui donner le vrai statut de candidat, donc en 99, et on attend encore 6 ans pour ouvrir la négociation en 2005, et depuis 12 ans que les négociations sont ouvertes, il ne se passe rien, on a fermé un chapitre. Et on continue de faire comme si cette négociation allait aboutir. Je crois que les Européens ont fait deux erreurs, et il faut, alors, quand je dis ça encore une fois, c'est pas du tout pour dédouaner Erdogan, mais il faut quand même le prendre en compte. La première erreur, c'est de croire que la négociation, que le processus de négociation elle-même était un processus de démocratisation, mais ça n'est pas vrai. C'est vrai que la Turquie a fait des grandes réformes, notamment l'abolition de la peine de mort en 2005, mais elle a aussi, cette négociation a permis aussi d'évincer le pouvoir militaire, qui était l'héritage du kémalisme, de la laïcité, etc. Et d'une certaine façon, ça a été un moyen pour le parti islamiste, l'AKP, de se débarrasser de son principal opposant. Et deuxièmement, deuxième naïveté des Européens, je termine là-dessus, c'est de croire que la Turquie était dans une situation de dépendance structurelle à l'égard de l'Europe, dépendance économique, dépendance à l'égard de son statut, dépendance politique. Ça a sans doute été vrai au début de la phase de négociation, en 2005. Ça n'est plus vrai depuis longtemps. C'est l'Europe qui est dépendante, en particulier sur la question des réfugiés. Monsieur Erdogan a une espèce de bombe à retardement contre les Européens, qui a 2,5 millions de réfugiés syriens sur son territoire. Et deuxièmement, la Turquie a une autre option que l'option européenne, c'est celle d'Erdogan, une option turque, nationaliste, islamiste, qu'il est en train de mettre en œuvre. Et donc je crois, encore une fois, qu'il faut reconnaître ses erreurs pour la suite. Et le débat continue en Europe entre ceux qui se demandent est-ce qu'on rompt les négociations de façon à bien marquer que c'est inacceptable ce qui se passe en Turquie. Je n'y ai pas parlé, mais 100 000 fonctionnaires évincés, 42 000 arrestations, 35 journaux fermés. Ou est-ce que, au contraire, on continue pour aider le peuple turc, ne pas les abandonner, etc. Ce débat continue. À mon avis, il mène nulle part. Je crois qu'il faut arrêter, rompre totalement les négociations d'adhésion avec la Turquie avant que lui-même ne le fasse.
Lionel Zinsou.
Oui, alors, il y a un regard non-européen sur la Turquie qui est important aussi parce que la Turquie sert un peu de modèle en Méditerranée, en Afrique, et ça, il faut que les Européens en soient bien conscients. Il y a d'autres politiques possibles pour que l'identité turque et la puissance turque et le rétablissement de la puissance turque soient réels. Ça se passe ou dans l'ensemble méditerranéen ou vers l'Asie centrale, où également l'influence est très forte. Et vous avez parlé de régression. Il n'y a pas de régression économique. Si vous prenez sur 15 ans, il y a une situation conjoncturelle, comme dans plusieurs marchés émergents, de repli. Mais au total, ça a été une période de croissance très élevée, qui a attiré des capitaux du monde entier. Et aujourd'hui, c'est une très grande puissance économique. Et cette puissance, elle s'exporte, elle se projette. Par conséquent, elle est regardée par le monde non européen comme un des modèles de croissance. Cette démocratie autoritaire, hein, qu'il y a des élections dont vous avez vu que les résultats sont très incertains, qu'elles se sont déroulées dans des conditions extrêmement difficiles, les soldats en armes, notamment à travers le Kurdistan turc, mais dans les bureaux de vote, des pressions très fortes, les opposants, en effet, en prison, les maires, les élus, les juges, les enseignants. Mais il ne faudrait pas croire que ce modèle de démocratie autoritaire qui confine à la dictature est rejeté par les pays en développement. Il y a une fascination pour la Russie de Poutine, pour la Turquie d'Erdogan, en se demandant si le modèle démocratique européen est efficace, ou si des démocraties autoritaires où des chefs se prolongent. Là, une des particularités, c'est qu'on remet les compteurs à zéro en termes de nombre de mandats. Donc, M. Erdogan peut être président s'il gagne les élections deux fois. Il peut être président jusqu'en 2029. Mais c'est un modèle qui existe dans beaucoup de pays comme un modèle normatif assez positif. Et notamment parce qu'il y a une perception d'efficacité économique. La Turquie a été pendant quelques années, juste au moment du printemps arabe 2011-2012, une espèce de modèle aussi d'islamisme modéré, compatible en effet avec une évolution démocratique et une modernisation de l'islam politique. Et ça aussi, c'est un grand écho dans les pays musulmans, donc c'est un grand écho vers l'Asie centrale, un grand écho au sud de la Méditerranée et en Afrique. Donc la Turquie s'est construite, pendant que les Européens étaient pusillanimes, auprès des populations des pays émergents ou des pays en développement, comme un modèle positif. Et le référendum ne suffit pas, dans ces conditions d'irrégularité, ou les purges après le coup d'État, à déclasser et à faire régresser la Turquie. La Turquie est redevenue une très grande puissance, elle participe au grand jeu. Deuxième remarque, il y a quelque chose de très troublant. Moi, j'étais ces jours-ci au Proche-Orient, dans une espèce de reviviscence d'ambitions impériales. Et alors, c'est très curieux, le grand jeu qui se réinstalle, comme si, après la fin de la guerre froide, vous aviez le retour à des réalités des années 20 et 30, c'est-à-dire au moment où la Turquie se construit dans sa nouvelle identité. Mais aujourd'hui, l'espèce de volonté de rayonnement dans les frontières de l'Empire ottoman. Donc ça, c'est très étrange, parce que, vous savez, supposons que l'Empire ottoman n'ait pas été démembré par les puissances de façon systématique, à certains égards humiliante, dans les années 20. On aurait aujourd'hui un ensemble de 400 millions d'habitants qui auraient de très très loin les plus grandes réserves pétrolières du monde et qui seraient une immense puissance. Et il y a comme un ressentiment à travers le Proche-Orient de cette destruction. de l'Empire ottoman. Et il y a non pas une volonté des pays devenus souverains, des nationalistes arabes, de redevenir turcs, enfin, ou d'appartenir à cet ensemble multiethnique et pluriconfessionnel. Néanmoins, on voit quand même que les frontières de l'influence du président Erdogan sont assez largement celles de l'Empire ottoman. Et voilà que la Russie redevient la Russie impériale et qu'on revient à des règles du jeu comme si on était avant la Seconde Guerre mondiale, dans une situation où les nationalités s'affirment, dans des situations de conflit, mais dans des situations où l'histoire longue se met à compter autant que les situations immédiates.
Il manque plus que l'Empire austro-hongrois pour remettre les choses, les pendules en retard.
C'est ce que j'allais dire. Il faut faire un petit peu attention néanmoins. C'est le retour des grands empires en tant que représentation. Et seulement en tant que représentation. C'est-à-dire faire référence à des périodes historiques extrêmement valorisantes. Et où, effectivement, on a parlé d'une politique néo-ottomane d'Erdogan, qui s'accompagne aussi dans la télévision de grandes séries où on remet en scène complètement les grandes périodes les plus prestigieuses de cette histoire-là. Mais comme on a dans le monde musulman la référence sans arrêt aux Abbassides, aux très grands empires qui justifient qu'on puisse prétendre encore à ce rôle très important. Comme on ne refait pas l'histoire, vous le savez aussi bien que moi, quand vous dites on aurait un ensemble de 400 millions d'habitants et puis qu'il y aurait énormément de pétrole, on ne sait absolument pas comment les choses auraient continué à évoluer et les contradictions internes qu'on aurait eues au sein de l'Empire ottoman qui existait déjà à ce moment-là. Donc tout ne relève pas seulement de l'accord Sykes-Picot, mais aussi de contradictions internes qui se développaient. Pour revenir sur la situation en Turquie, oui, il a gagné Erdogan. Et il a dit une chose très juste, si ça avait été le non à 51 et quelques, ben personne m'aurait dit que ça avait été falsifié et tout le monde, tout au moins en Occident, aurait été content. Bon, ce qui n'est sans doute pas faux. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, si vous laissez, on a bien cette carte d'une Anatolie intérieure et d'une mer Noire qui a voté oui. Et puis on a bien la mer Égée, la mer Méditerranéenne et le sud-est de la région kurde qui a voté non. Mais dans des pourcentages qui sont relativement serrés. Même si Istanbul, Izmir, Ankara votent non, ils votent non à quoi ? À 51 et quelques ? À 52 ? C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'électeurs à Istanbul, à Izmir et à Ankara qui ont voté non. Et ça, c'est une situation qui est, à mon sens, extrêmement importante. Ça veut dire que ces résultats...
Qui ont voté oui.
Oui, pardon, qui ont voté oui. Ces résultats traduisent bien une polarisation de la société turque aujourd'hui. Et avec une société suffisamment polarisée pour que les modes de vie des uns et des autres ne coïncident plus. Ils finiront par ne plus vivre dans les mêmes quartiers, ils ne verront pas les mêmes films, ils n'iront pas au même théâtre, ils n'iront pas les mêmes journaux, ils ne vivront pas de la même façon, ils n'iront pas dans les mêmes écoles, et que cette situation-là est une situation extrêmement préoccupante. Et ça va être, dans le cadre de la politique d'Erdogan, quelque chose de très difficile à gérer. Soit on aura une élite occidentalisée qui quittera la Turquie parce qu'elle n'en pourra plus et qu'elle ira s'installer aux États-Unis ou en Europe, et ce sera peut-être un moindre mal, et que cette polarisation d'un conservatisme sunnite bourgeois, c'est-à-dire que c'est pas des pauvres d'un côté qui voteraient Erdogan et des riches qui seraient occidentalisés, c'est plus ça aujourd'hui. C'est des conceptions de ce que doit être la société qui sont aujourd'hui très très différentes. Alors moi je rejoindrais assez bien Nicole de dire au fond, si peut-être l'Europe avait été moins frileuse, plus audacieuse, ben on les aurait arrimés plus du côté de l'Europe et on n'aurait pas eu cette évolution-là. Néanmoins, c'était pas évident non plus de faire accepter à l'ensemble des populations européennes, à la suite quand même d'attentats qui avaient été faits par des musulmans, d'intégrer comme ça 80 millions de musulmans au sein de l'Union européenne. Et qu'on avait un certain nombre de très grosses difficultés à affronter à ce moment-là. Donc la situation difficile pour Erdogan commence maintenant.
François Bujon de l'Étang.
Oui, je souscris à ce jugement qui vient d'être dit in fine par Béatrice Jubelin. Des choses diverses ont été dites jusqu'à présent par les trois intervenants. D'abord, pour ce qui concerne le passé, je crois que c'est toujours très très difficile de reconstruire le passé. Alors, on peut le faire en se couvrant la tête de cendre, Nicole, comme les Européens ont toujours tendance à le faire, dès qu'ils abordent un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit la colonisation, que ce soit la façon dont la Russie a été traitée après l'effondrement du mur de Berlin, que ce soit la négociation avec la Turquie. Incidemment, d'ailleurs, vous avez dit que vous vous demandiez pourquoi Erdogan disait depuis 50 ans, il a raison de dire depuis 50 ans, car en réalité, il fait allusion à l'accord d'association de 1963 entre l'Union européenne et la Turquie qui prévoyait expressément une perspective d'adhésion après l'association. Et ça, c'est 1963, donc on a bien 50 ans de palinodie sur ce sujet, c'est vrai. Bon, mais je pense que on peut retourner ce gant, parce qu'on peut dire aussi que M. Erdogan a utilisé l'Union européenne pour démantibuler le Kemal. C'était l'article premier de son credo. Il voulait fermer la parenthèse kémaliste. N'oublions pas d'où il vient. C'est un homme qui a des racines islamistes, qui était un disciple de M. Erbakan, qui voulait refermer la parenthèse kémaliste, qui en voulait mortellement à Kemal d'avoir aboli le califat, laïciser le pays et tout ce qui s'ensuit. Et il a utilisé l'Europe et les critères de Copenhague pour démanteler, sous les applaudissements de l'Europe, le pouvoir des militaires turcs. Donc, au fond, qui s'est servi de qui ? Bon, on peut ergoter, je crois, indéfiniment. Et pour ce qui est d'un puissant empire ottoman de 450 millions d'habitants dotés de ressources pétrolières et tout ce que vous voudrez, c'est faire bon marché de ce que les nationalistes... Si M. Sykes et M. Georges Picot ne s'étaient pas mis au travail conjointement quand ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nationalismes arabes se seraient chargés depuis l'heure, depuis belle lurette, de déchirer l'empire ottoman et de le faire voler en éclats. Donc, ne cédons pas à l'Uchronie, mais si on se penche, comme l'a fait Mme Jubelin, sur le présent, on peut dire que peut-être les difficultés commencent pour Erdogan aujourd'hui. Il a gagné, au fond, il a gagné sur à peu près toute la ligne. D'abord, c'est vrai, Lionel Zinzou l'a rappelé à très juste titre, qu'il est l'auteur du miracle économique turc. Simplement, aujourd'hui, il est un peu la victime de l'essoufflement du miracle économique en question, du ralentissement de la croissance, du retour de l'inflation et du fait que les mêmes classes moyennes qui ont bénéficié énormément de sa politique économique, aujourd'hui se plaignent de tout cela. Bon, mais il a gagné sur à peu près toute la ligne, il a réussi à réislamiser le pays, il a démantelé complètement l'État profond et le pouvoir militaire turc, il a fait une répression gigantesque après le coup d'État manqué du 15 juillet dernier, il y a des centaines de milliers de fonctionnaires qui ont été suspendus, vous l'avez rappelé, Nicole, il y a 45 000 personnes en prison, enfin, c'est quand même tout à fait extraordinaire, et il a réussi sa réforme constitutionnelle, puisque c'était son idée fixe depuis longtemps. À concentrer tous les pouvoirs dans la main du président, avoir un vrai régime présidentiel qui contrôle non seulement l'exécutif, mais qui contrôle aussi totalement le législatif et totalement le judiciaire, ce qui est très important, puisque dès aujourd'hui, et sans attendre l'élection de novembre 2019, il peut complètement redistribuer les cartes au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme lui-même un certain nombre de ses membres. Les autres sont nommés par sa majorité parlementaire et le tour est joué. Donc, au fond, il a gagné. Mais les résultats du dernier référendum ne sont pas si brillants, au fond. Quand on les compare avec le caractère très déséquilibré de la campagne qui a été menée et qui vraiment n'a pas fait la part belle aux opposants, qu'ils soient Kurdes ou autres, le résultat est quand même mince. Voilà la Turquie coupée, on dit en deux, mais en fait elle est coupée en trois en réalité, parce qu'il y a le Kurdistan, quand même 15 millions d'habitants, c'est pas 15 millions, qui est une Turquie. Il y a la Turquie qui reste, disons, européanisée, un peu kémaliste, qui est celle des grandes villes, pour simplifier, et puis il y a la Turquie des campagnes anatoliennes, qui est au contraire fanatiquement pro-Erdogan. Et on a un homme qui, lui, se livre vraiment à l'hubris autocratique, tout à fait extraordinaire. Il suffit de le voir dans son palais d'Ankara, où il y a 1150 pièces, paraît-il, et 200 mètres carrés d'emprise au sol. J'ai lu récemment dans la presse qu'il avait recruté...
2000
mètres carrés.
C'est 200.
2000 mètres carrés. Non, c'est 200 000.
200 000,
pas 2000 mètres carrés, vous plaisantez. C'est 200 000 mètres carrés. C'est l'ancienne ferme d'Atatürk sur laquelle il a construit un palais à faire retourner Ceausescu dans sa tombe, parce que c'est autrement encore mégalomane. Et puis, voilà, il y a ce côté totalement intolérant à l'égard de toute critique, de toute voix dissidente, qui fait qu'il devient un partenaire international, d'ailleurs extrêmement difficile. Alors, vers quoi se dirige-t-on en réalité en Turquie ? Probablement, à des difficultés internes, parce qu'il est très possible que lui continue sur la voie de l'autocratie et pousse encore plus loin ses avantages, mais il est possible aussi que l'opposition se radicalise et que l'opposition se sente encouragée par les résultats du référendum, notamment dans les grandes villes où elle a quand même fait de gros scores. C'est très symptomatique de voir que dans ce pays où pourtant la campagne porte la marque du pouvoir, le poids du pouvoir, l'alliance de l'AKP, le parti de M. Erdogan, et du parti d'extrême droite qui est son allié, totalise dans le référendum 10% de voix de moins que ce qu'elle avait totalisé dans la dernière élection législative. Donc il y a quand même un certain reflux. Et ça ne peut que préoccuper M. Erdogan. Et on va voir ce qui va se passer. Mais il est très possible que nous ayons une radicalisation. Nous allons avoir des tensions nouvelles, d'ailleurs avec l'Europe, puisqu'il annonce son intention de faire un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Ça, avec le Conseil de l'Europe ou avec l'Union européenne, c'est quasiment un casus belli, et ce sera de facto la fin de cette charade qui veut qu'on poursuive la négociation d'adhésion, alors qu'en réalité, elle est en coma dépassée depuis déjà pas mal de temps. Il y a le chantage aux réfugiés syriens, sur lequel il peut naturellement faire monter la pression quand il le veut, c'est lui qui est le maître du jeu dans ce domaine, et puis il a même parlé de la possibilité de faire un référendum sur la négociation avec l'Europe, ce qui serait pousser les choses encore beaucoup plus loin, bien entendu. Donc les relations seront difficiles avec l'Europe, la situation politique intérieure va rester difficile et tendue, et avec les États-Unis, les choses sont très très incertaines aussi. Il va rencontrer M. Trump, avez-vous dit, c'est vrai, et il a déjà vu M. Rex Tillerson, le secrétaire d'État, il y a quelques jours. Trump l'a félicité pour le résultat de son référendum, ce que les dirigeants européens n'ont pas fait, c'est important de le rappeler. Et lui, par contre, Erdogan, a bruyamment félicité M. Trump pour avoir été bombardé une base militaire en Syrie après l'usage de gaz par l'armée syrienne. Mais les divergences sont très nombreuses et la principale porte sur la Syrie en réalité. Les Américains veulent continuer d'utiliser leurs alliés kurdes du PYD dans l'offensive contre Raqqa. Ce sont des troupes qui ont fait leur preuve et sur lesquelles les Américains comptent, de même qu'ils comptent sur les Kurdes en Irak. Et M. Erdogan, lui, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il le voudrait, bien entendu, que l'on restreigne au contraire l'activité, et il aimerait bien que ce soit l'armée turque qui soit substituée comme alliée aux Kurdes du pays grec.
Nicole Nisotto.
Oui, je voudrais revenir sur le modèle turc dont parlait Lionel Zinzou pour en particulier les pays du sud voisin de la Turquie. C'est vrai ce que vous dites, que la Turquie représente un mélange d'autoritarisme et de réussite économique qui peut apparaître un contre-modèle par rapport à l'exigence démocratique du modèle occidental. D'ailleurs, on a la même chose en Asie. La Chine représente un modèle autoritaire plus réussite économique qui est très très concurrentiel du modèle américain, du rêve américain. Et on voit aussi la même chose en Europe, où avec M. Orban, avec la Pologne, avec cette fascination pour Poutine et pour Trump, on voit aussi renaître cette espèce de nostalgie, cette demande d'autorité de la part de certains électorats européens. Donc tout cela est vrai, mais cela pose encore plus, à mon avis, la question de ce que doit faire l'Union européenne, de la responsabilité des Européens dans cette affaire. Alors, François, je ne crois pas que les Européens se flagellent trop. Je crois qu'on a fait des erreurs, et quand on fait des erreurs, il faut les reconnaître. Il y en a eu une sur la Russie, il y en a une sur la Turquie. Moi, je n'étais pas pour la négociation, pour l'adhésion de la Turquie, mais je pense qu'on a mal géré cette ambiguïté. Mais donc, que font les Européens? Soit on dit... Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est le mouvement du monde, l'autoritarisme, il y a une espèce de vague brune qui monte dans la terre entière et on ne peut rien faire. D'autant que la Turquie a des cartes contre nous, les réfugiés, elle est aussi notre alliée dans l'OTAN, c'est elle qui protège le flanc sud, elle a une base très importante dont qu'utilisent les Américains pour les opérations aériennes au sud, la base d'Incirlik, il y a des dépôts d'armes nucléaires américaines sur cette base turque, l'espace aérien turc est indispensable pour toute opération du sud, donc on a vraiment peut-être peur de perdre cet allié. Donc, est-ce qu'on est dans cette option de démission? Tant pis, c'est comme ça, on essaye de limiter les dégâts. Ou est-ce qu'au contraire, enfin, peut-être pour la dernière fois, les Européens disent non, il y a un seuil d'inacceptable quand on s'appelle Européen et il faut le marquer. Moi, je souhaite que très vite la décision soit prise par l'Union Européenne de rompre la négociation d'adhésion et de commencer un autre dialogue, peut-être pour autre chose, mais en tout cas de marquer le pas qu'il y a de l'inacceptable pour l'Europe.
Béatrice Giblin.
Oui, moi je pense qu'il y a quand même des situations où on est obligé d'être un peu plus raisonnable que ce qu'on affiche dans un certain type de discours. Je ne suis pas sûre que Erdogan soit pressé de sortir de l'OTAN, par exemple. Il a une excellente armée, il a une grande armée, c'est sûr, mais il est quand même dans cet ensemble-là depuis très longtemps, et si parfois il montre sa mauvaise humeur en ne permettant pas qu'on utilise les bases, comme ça a pu être dans la guerre en Irak, néanmoins je ne le vois pas faire une rupture aussi forte que ça. On a des postures, on a des déclarations qui sont à la fois dans un jeu de géopolitique interne et dans un jeu de géopolitique externe. De là à aller faire la rupture totale, je pense que ça prendra un certain temps. De même vis-à-vis de l'UE, bien sûr, il tient ce discours et je vais faire un référendum et puis ce sera peut-être sur la peine de mort et à ce moment-là, bon, de fait, ça met un terme à tout. Négociation avec l'UE. Mais une grande partie, quand même, de ses soutiens, qui sont une bourgeoisie entrepreneuriale, conservatrice, anatolienne, mais pas seulement anatolienne, elle se trouve aussi en mer Égée et en Méditerranée, fait son marché avec l'Union européenne et a passé des tas d'accords. Bien sûr, ils n'y sont pas dans l'Europe. Néanmoins, ils ont des tas d'accords extrêmement avantageux. Je ne suis pas sûre que tout cela serait ravi de perdre cette possibilité du marché. Et c'est là où je disais, on va avoir quand même un certain nombre de difficultés qui vont arriver. Parce que c'est une chose de dire, eh bien, on quitte l'Europe et on se raconte qu'on redevient le grand empire ottoman et tous les Arabes nous attendent à bras ouverts. Je demande à voir, parce qu'il y a quand même dans l'histoire des choses qui se sont mal passées et dont on se souvient. Donc je pense que la situation, elle va être simplement plus complexe. Et on va peut-être arriver à être contraint de négocier. Soit parce que c'est la situation en Syrie, parce que la situation en Syrie, elle n'arrange absolument pas Erdogan non plus. Si jamais on avait un Kurdistan irako-syrien, qui heureusement ils ne s'entendent pas trop bien, donc c'est une chance, il faudra jouer là-dessus. Mais ça pose de gros problèmes vis-à-vis du Kurdistan turc, c'est évident. Or, l'idée de pouvoir perdre une partie de la Turquie, après avoir été tant démantelée, d'être devenue que cette Turquie, considérée comme petite à l'échelle de ce que fut l'Empire, c'est inenvisageable. La perte du territoire est inacceptable, y compris par une grande majorité des Turcs, y compris pour certains Kurdes d'ailleurs. Donc moi, je pense que la situation, elle va rester très compliquée et pendant longtemps.
Lionel Zinsou.
Oui, je voulais juste ajouter que dans le rapport de force, il y a en effet beaucoup de cartes quand même du président Erdogan, notamment au Caucase où son influence est importante, dans les affaires intérieures de ce qui fut dans l'Empire ottoman, la Roumanie, la Moldavie, etc. Bon, là il y a une influence. Le Kazakhstan est turcophone, les influences économiques et politiques vers l'Asie centrale sont non négligeables. Et ce que je voulais juste rappeler, c'est que, oui, la référence impériale, le mythe, tout ça, peut être traité comme vraiment fantasmé, mais enfin, il y a deux générations, c'est extrêmement proche. C'est, au fond, le démantèlement de cet empire, et donc la façon de renouveler la nostalgie impériale est quand même facilitée par le fait que tout ça s'est déroulé à l'âge des grands-parents des enfants turcs d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas exactement comme vouloir retrouver Byzance ou vouloir retrouver Pierre le Grand ou l'Empire romain d'Occident. C'est des choses d'extrêmement récent au XXe siècle. Et donc c'est quand même un élément qui est assez important sur l'influence turque. Mais l'influence turque, elle a matériellement, vraiment, vers le Caucase, vers l'Asie centrale, vers le Proche-Orient, des forces réel, qu'on a très bien mesuré par le fait que, quand même, Daesh a vécu de l'achat à 50% du prix, semble-t-il, avec non seulement l'autorisation du président Erdogan, mais avec l'implication de la famille du président Erdogan, du pétrole exploité en Irak et en Syrie, dans la zone de Daesh. Et le déclin de Daesh n'est pas que l'effet des frappes, l'effet de l'Occident, l'effet... Et d'une coalition, c'est l'effet du fait que, désormais, apparemment, la Turquie n'est plus acheteuse de ce pétrole. Et donc, il y a, au fond, une dégradation budgétaire de Daesh. Mais une grande partie des moyens de Daesh ont été fournis par la Turquie. C'est évidemment une transgression, un crime absolument fondamental. C'est d'autant plus singulier d'entendre le président Trump féliciter le président Erdogan dans cette situation où, franchement, l'ennemi contre lequel tout l'Occident est dressé a été financé et tenu debout par la Turquie. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'armes, beaucoup de cartes dans le jeu turc et que forcément il va falloir faire de la réelle politique avec la Turquie. Mais le fantasme impérial est quelque chose que l'Occident ne devrait pas mépriser et considérer comme ridicule. Parce que il est partout. C'est-à-dire qu'il y a une désoccidentalisation profonde. Et dans la nostalgie russe, dans la nostalgie ottomane, mais même en Afrique, dans la nostalgie de l'Empire Songhaï, il y a l'idée de la fierté retrouvée et on est en train de fermer une parenthèse qui était une parenthèse de domination, de colonisation, et les Européens ont raison de se flageller parce que cette parenthèse se referme partout, même si on instrumentalise l'histoire pour retrouver cette fierté. Mais si on ne voit pas ça, si on considère que c'est folklorique ou anecdotique, on se trompe, parce qu'il y a un déclin moral de l'Occident. Et le fait d'avoir dit à la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire, ben, au fond, au Proche-Orient, on voit que non seulement c'est pas la fin de l'histoire, avec la convergence de tous, mais c'est un retour de l'histoire longue qui redevient extrêmement important. On en parlait avec les chrétiens d'Orient, avec le fantasme du patriarcat de Moscou justifiant la politique de Vladimir Poutine. C'est pas la fin de l'histoire, c'est le retour d'une histoire longue, mais l'Occident a fait quelques erreurs, dont celle de ne pas être vraiment dans l'humilité devant l'apparition des mondes émergents. La Turquie est un grand émergent et l'Occident ne l'a pas traité, notamment dans la négociation avec l'Union européenne, comme un grand partenaire. Et ça a un écho partout. Beaucoup s'identifient. Vous avez fait allusion à la Chine, autre modèle de démocratie autoritaire, enfin plus autoritaire que démocratique, enfin, un système efficace en termes économiques, mais très très efficace. Eh bien, tout cela, si vous voulez, c'est au fond au détriment de l'Occident qui ne réagit pas en prenant tout à fait au sérieux ces éléments qui sont peut-être très qualitatifs, très fantasmés, mais qui sont très importants aussi.
Oui, les fantasmes et l'Uchronie sont des falsifications volontaires ou pas volontaires, mais qui, dans bien des cas, mènent les peuples et permettent des mobilisations quelquefois durables et en tout cas importantes. Et en même temps, pour enchaîner avec ce que vient de dire Lionel, je pense qu'il y a dans notre propre enseignement, il y a une grande ignorance de ce qu'ont été ces empires et de leurs différences, et notamment des particularités de l'Empire ottoman et de la manière dont il, ce qui n'enlève rien au fait que les nationalismes à l'intérieur de cet empire auraient sans doute en effet fait exploser l'empire, mais cependant le mode de gouvernement de l'Empire ottoman vis-à-vis de ses minorités est très différent de ce que on associe nous à la notion d'empire. Béatrice Giblin.
Oui, il s'agissait pas de le prendre avec mépris. j'insistais sur le fait que c'était une représentation réactivée. Et les représentations sont extrêmement mobilisatrices. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Et c'est pas forcément le retour de l'histoire, on reprend pas. Mais on est simplement dans une situation... dans une situation de nouvelle où on réactive ces souvenirs historiques, mais on n'est pas du tout dans la continuation de ce qu'elle était au moment de la dispersion ou dissolution de ces empires. C'est-à-dire on reprend pas le fil et comme si on continuait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas l'Occident qui se trouve dans une situation de domination et ce qu'elle fut, on va dire, de la fin de la Renaissance jusqu'à ces temps derniers, c'est sans doute terminé. Je suis bien d'accord avec vous. Néanmoins, on est dans une configuration et dans des nouveaux rapports de force en 2017 avec la représentation extrêmement mobilisatrice et valorisante des grands empires. Vous l'avez dit à propos de l'Empire Songhaï, on va le retrouver partout. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Loin de moi l'idée de le traiter de façon méprisante et c'est pas ça du tout que je voulais dire. Mais c'est dans un contexte géopolitique actuel, comment on mobilise l'histoire pour rendre fierté nationale, bah c'est le rôle de la Chine. Hein. La Chine, c'est vrai, la parenthèse, c'est fini. Hein. On était largement dominant, on a eu un petit moment d'arrêt, puis maintenant, ça y est, on reprend le rôle qui doit être le nôtre dans une autre configuration.
Je ne sais pas si ça ne serait pas utile à ce point de notre conversation de rappeler ce qu'était l'Empire Songhaï et quelles étaient à la fois ses limites géographiques et son mode de gouvernement et son emplacement dans l'histoire.
Yodin. Alors, ses frontières vont grosso modo du Tchad, enfin du Soudan, jusqu'à l'Atlantique, jusqu'au Sénégal. Et c'est donc un empire sahélien qui va assez haut dans le Sahara, qui comprend tout le Sahel sud-saharien et qui descend jusqu'aux limites des grandes routes caravanières du centre du Nigeria, du nord du Bénin, du nord du Ghana. Donc c'est quelque chose qui embrasserait tout le Sahel. Et de façon troublante, c'est une géographie dans laquelle aujourd'hui on a de l'insécurité, et on a des liens entre des mouvements terroristes. Et c'est une géographie qui, du point de vue, qui ne correspond plus du tout aux frontières des États. On a cassé complètement toute référence, évidemment, à l'Empire Songhaï dans la colonisation, avec la course entre l'Angleterre, la France, marginalement l'Allemagne. Donc on a la géographie, la géopolitique a été cassée complètement, mais il y a des solidarités entre les peuples, solidarités culturelles, des peuples comme le peuple Peul, qui était d'un bout à l'autre, d'est en ouest, un peuple au fond de cet empire Songhaï. Il y a la nostalgie des richesses, de l'or, du grand commerce caravanier, mais au fond, c'est en train de réapparaître une réalité humaine, culturelle. Tout ceci est aussi traversé d'influences berbérophones, parce que au fond, la langue berbère avait des parentés avec le Haoussa à l'extrême est de cet empire. Et on est en train de voir, parfois utilisé par les terroristes eux-mêmes, une espèce de reconstitution imaginaire, mais assez réel, de cet empire. Et cet empire était un des empires les plus avancés. D'ailleurs, il y avait, au fond, dans la période précoloniale, des États très avancés, et le retour de fierté à partir de ces références est étonnant. Et alors, curieusement, le pays où on utilise le plus la référence à l'Empire Songhaï, et vous avez des marques Songhaï dans tous les domaines financiers, que de consommation, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est quand même à 4000 km de la frontière sud de l'Empire Songhaï. Mais il est réapproprié comme un élément de fierté africaine. Et ces éléments, comme disait Madame Giblin, ont une capacité de mobilisation aujourd'hui très forte, parce qu'ils disent, nous n'avons pas comme nature d'être dominés, nous avons une renaissance, et cette renaissance part de ces racines-là, et ce qui s'est passé, c'est une période très pauvre, un moment très faible, un moment très médiocre, mais très court, où on a été dominé par la colonisation. Très court, la colonisation moderne, c'est 1895-90, ça s'arrête en 1960, ça n'aura donc duré que 70-80 ans. Petite parenthèse, à l'échelle de l'histoire. Et du coup, on va chercher des moyens de se remobiliser dans cette histoire-là.
François Bujon de l'Étang.
Alors, moi, il me paraît très, très naturel, très compréhensible, très humain que la nostalgie des grands empires et des âges d'or soit très opérante aujourd'hui, effectivement. Et plus les temps sont durs, plus la nostalgie des âges d'or ne peut que se raviver. C'est tout à fait compréhensible. C'était d'ailleurs très vivant dans la Turquie de M. Erdogan, puisque c'est lui qui a inventé la formule de politique néo-ottomane, ou plus exactement, c'est son ancien conseiller diplomatique devenu ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. M. Ahmet Davutoğlu, qui avait inventé cette formule de néo-ottomane. C'est à la fois une nostalgie et une ambition dans ce domaine. Et c'est une ambition qui d'ailleurs a échoué, puisque le premier point de la nostalgie et de la politique néo-ottomane est de dire zéro problème avec les voisins. C'était vraiment le premier point de cette politique. Or, la Turquie est aujourd'hui à couteau à peu près tiré avec la quasi-totalité de ses voisins. Que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, les relations sont vraiment difficiles. Donc, voilà, ça, c'est un premier point. Je voudrais revenir au problème de l'Europe. L'Europe, elle a un reproche à se faire, dit Nicolas, vrai de vrai, alors que je lui fais depuis très longtemps, et je pense que vous serez d'ailleurs d'accord avec moi là-dessus. Elle n'a jamais eu le courage de dire qu'elle avait des frontières. Elle a des frontières qui sont soit naturelles, la Méditerranée, par exemple. Je me souviens d'une époque, vous en souviendrez peut-être, Philippe, où le Maroc du roi Hassan II avait fait quelques bruits pour dire qu'il aimerait bien adhérer à l'Union européenne. Et on lui a répondu le plus amicalement du monde qu'on adorait le Maroc et les Marocains, mais qu'il y avait quand même une définition géographique de l'Europe et que le Maroc n'en avait jamais vraiment fait partie, puisque la Méditerranée, s'il y a une frontière naturelle, c'en est bien une, n'est-ce pas ? Mais il y a des frontières naturelles à l'Europe, et vous pouvez soutenir que, dans le cas de la Turquie, vous pouvez soutenir deux choses dans le cas de la Turquie. Le premier, c'est qu'il n'y a qu'une très petite fraction du territoire turc et de la population turque, et la population de la ville d'Istanbul et de la Thrace orientale, finalement, qui sont en Europe. Le reste est en Asie, et moi, j'ai jamais appris dans mes manuels d'histoire que l'Europe avait des frontières communes avec l'Iran et avec l'Irak, par exemple. Mais vous pouvez aussi soutenir, si vous prenez à l'invitation de notre ami Lionel Zinzou, le temps long comme mesure. Si vous prenez le temps long, vous pouvez soutenir que 3 siècles d'histoire européenne ont consisté à repousser l'Empire ottoman en dehors de l'Europe, n'est-ce pas ? Et qu'en réalité, depuis Jean Sobieski sous les murs de Vienne, on n'a pas cessé d'être dans ce mouvement de repousser les Turcs. Ce qui fait que l'accord d'association de 63 que M. Erdogan nous reproche presque aujourd'hui était en réalité une main tendue pour réinventer une relation nouvelle, constructive et à la mesure de notre époque. Alors pour en revenir à la suggestion de Nicole qui dit « je préférerais qu'on mette fin à la négociation, à cette fiction qu'est la négociation d'adhésion avec la Turquie », je ne suis pas en opposition avec ça. Les Européens sont très divisés, comme vous le savez, sur ce point, et c'est en soi difficile. C'est peut-être Erdogan qui va se charger de clarifier la situation avec les initiatives dont il parle, nous verrons. Mais si on en arrive là, il sera très important de le faire de façon positive, c'est-à-dire d'élaborer une formule alternative pour la lui soumettre. Parce que jusqu'à présent, on s'est borné à lancer en l'air une vague idée de trouver un accord d'association, de partenariat privilégié avec ce grand pays qu'est la Turquie. Et les Turcs ont toujours repoussé ça d'un revers de main. Mais ça n'a jamais été une vraie proposition. Tandis qu'une proposition articulée, constructive, comprenant vraiment quelque chose d'unique et de ne pourrait pas être repoussée d'un revers de main et permettrait alors de mettre fin à la fiction d'une adhésion pure et simple aux conditions traditionnelles.
Nicole Niesoto.
Oui, je suis d'accord sur ce point. On a un modèle de partenariat privilégié qu'on avait élaboré, non pas vis-à-vis de la Turquie, mais vis-à-vis de la Russie.
De la Russie,
les
oui.
Quatre espaces.
Oui, oui, parfaitement.
On pourrait effectivement essayer de penser quelque chose. Mais moi, je voudrais reprendre un terme qu'a employé Lionel Zinzou et qui me paraît fondamental, c'est le terme de la désoccidentalisation du monde. Je crois que vous mettez là le doigt sur quelque chose d'essentiel qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à accepter, parce que ça remet en cause, évidemment, beaucoup de nos certitudes. Mais, alors, on a une désoccidentalisation idéologique, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est... sur le plan économique, c'est le modèle occidental d'économie libérale de marché qui a a envahi toute la planète, y compris les régimes communistes, y compris les régimes totalitaires. Donc nous avons gagné sur le plan économique, mais en revanche, cette victoire est une victoire à la Pyrrhus parce qu'elle se traduit effectivement par un rejet sur le plan politique. Donc ça, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un des événements majeurs de ce début du XXIe siècle. La question est, que faire? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ce reflux du modèle occidental et cette montée en puissance des modèles impériaux, autoritaires, voire dictatoriaux, y compris, je répète, en Europe, et on le voit même en France dans les élections, cette espèce de nostalgie du modèle national, non pas impérial, mais national. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a deux solutions. Soit on... Voilà, il n'y a rien à faire, on se dit c'est le vent de l'histoire et on essaye de se préserver une petite Europe confortable, prospère, protégée, on ferme les frontières et on reste entre nous et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Ou est-ce que malgré tout, on se dit que dans la mondialisation, les Européens peuvent incarner quelque chose de différent qui peut être attractif aussi pour les autres et à ce moment-là, on maintient des exigences minimales démocratiques vis-à-vis de nos alliés. Moi, je ne veux pas être allié avec la Turquie qui devient une dictature dans le cadre de l'OTAN. Donc je crois que la responsabilité politique de l'Europe, là, elle est vraiment importante.
Béatrice Gible.
Oui, sur les empires, vous avez dit les frontières. Moi, je serais plus prudente que ça, parce que sur l'Empire de Songhai, on n'était pas qu'un empire qui était avec des frontières délimitées. Vous savez, quand on dit frontières, dans l'idée des gens, c'est une ligne bien précise.
Des douaniers.
Hein, avec des douaniers, il y a ce qui est chez moi, et de l'autre côté, il y a ce qui n'est pas chez moi. Il est bien évident que les limites de cet empire, elles étaient extrêmement floues, d'abord parce qu'on est dans des espaces de faible densité, et que le contrôle total exercé au sens où on l'entend aujourd'hui comme un État sur son territoire n'était bien évidemment pas de cette nature. Et qu'on est en plus dans une zone sahélienne, c'est-à-dire où le nomadisme est absolument important et où la circulation, vous avez parfaitement raison, et la notion d'État et même savoir qu'on appartenait à cet empire-là et se reconnaître comme participant de cet empire n'était pas partagé, loin de là, par l'ensemble de la population. En revanche, que aujourd'hui on revienne sur cette représentation, et y compris sans doute dans des cartes qui doivent être faites où on trace ce grand empire pour montrer effectivement la puissance que ça a pu avoir, et que ce soit très mobilisateur, ça j'en suis intimement convaincue, et que ça participe même du projet islamiste. Parce que ça peut permettre au contraire de pousser un certain nombre de gens à adhérer à ce projet en disant « mais c'est possible !» Et qu'à la limite, un islam intégriste violent puisse attirer, avec cet espoir d'être de nouveau un très grand ensemble qui fera peur aux autres, est quelque chose de très très puissant. Donc je ne néglige absolument pas ça, mais je pense qu'il est important de toujours bien préciser de quoi on parle, et quand on dit frontières, et quand on dit contrôle de territoire.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Eh bien, Béatrice Giblin, voulez-vous l'ouvrir?
Oui, c'est un petit livre sous un prête-nom, Mahmoud Hussein, ses deux auteurs, Les musulmans au défi de Daesh. C'est un petit livre qui a été publié aux éditions Gallimard et que je trouve très utile. Il fait 80 pages, donc on peut le lire assez rapidement. Et la question, c'est pourquoi les musulmans en France ne dénoncent-ils pas publiquement la guerre menée par Daesh, justement au nom de l'islam des origines? Et c'est, on réclame souvent une dénonciation morale, mais aussi réfuter le discours de Daesh sur le plan théologique. Or, on nous entend souvent « oui, mais ça, c'est pas l'islam ». Et on estime souvent qu'ils ne sont pas assez nombreux à le faire et qu'ils devraient manifester plus fortement. Et ce petit ouvrage explique pourquoi la remise en question d'un dogme selon lequel le Coran étant la parole de Dieu, tous ces versets sont imprescriptibles et donc on ne peut pas la remettre en question. Et ce travail qui s'adresse aux musulmans mais aussi aux non-musulmans rappelle que ce, au fond, code ne découle pas. Ce dogme ne découle pas du Coran, mais d'un postulat idéologique plaqué sur le Coran longtemps après la mort du prophète, puisque ça a été écrit, puisque une tradition orale qui est passée à l'écrit un siècle et demi après. C'est fort utile à lire.
Merci beaucoup, Lionel Zinsou.
Oui, moi je voudrais parler d'une exposition qui ouvre cette semaine, le 26, au public, à la Fondation Louis Vuitton, et qui est consacrée à l'art contemporain africain, avec trois grands éléments, mais notamment pour l'Afrique du Sud, un panorama des créateurs contemporains, qui sont peut-être les plus connus dans le reste du monde, mais aussi tout un travail sur les ateliers des grands artistes, une mise en avant d'un grand artiste béninois, Romuald Azoumé, qui a eu le grand prix de la Documenta de Cassel, et la présentation, enfin, d'une collection, celle de Jean Picozzi, qui est une des plus grandes collections, la plus grande collection d'art africain contemporain au monde, avec des milliers d'œuvres, et qui présente une sélection. Et la Fondation Louis Vuitton vient d'étonner le monde avec une fréquentation extraordinaire de l'exposition Tchoukine, qui a amené, si je ne me trompe pas, plus de visiteurs que les records des expositions du Grand Palais, plus que le trésor de Toutankhamon, quelque chose de tout à fait inédit pour un musée exceptionnel mais récent. Alors, on verra si l'Afrique a le même succès. Il faut dire que c'est dans un contexte où il y a plusieurs manifestations liées à l'Afrique de grand intérêt et de toute nature en ce moment. Il y a une exposition au Galerie Lafayette, très bien faite, parce que le Galerie Lafayette font de grandes expositions thématiques sur un thème national et consacrées à l'art africain contemporain et à l'Afrique en général. Il y a eu pour Art Paris une dominante « L'Afrique ». Invité, donc ça c'est les grands marchands, les grandes galeries. Il y a eu à la Villette, en art plastique et en spectacle vivant, également des manifestations très importantes. Paris est devenu une espèce de capitale sur l'art africain contemporain, mais Louis Vuitton, ça risque d'être très important à partir du 26 avril.
François Bujon de l'Étang.
Pour ma part, je vous emmène au théâtre. Je voudrais saluer l'entrée au répertoire de la Comédie française de la résistible ascension d'Arthur Auy. On peut ne pas aimer Bertolt Brecht, c'est le cas de beaucoup de gens très estimables que je connais, mais c'est une pièce importante dans le répertoire du XXe siècle, et la production que la Comédie française vient de présenter et qui dure jusqu'au 30 juin, ce qui fait que on a le temps d'aller la voir, est une production absolument remarquable pour deux raisons. D'abord parce que la conception, la mise en scène est due à Katharina Thalbach, qui est dans la grande tradition du Berliner Ensemble, et que elle emprunte...
C'est la fille de Benno Besson.
Absolument, c'est la fille de Benno Besson, et elle a déjà beaucoup travaillé, beaucoup mis en scène dans cette tradition-là, qui est la grande tradition du théâtre allemand. Elle emprunte beaucoup à l'expressionnisme allemand dans sa mise en scène, qui est très graphique, qui est très, très spectaculaire, et qui met à l'épreuve la troupe de la Comédie française, qui s'en sort une fois de plus avec un talent collectif absolument remarquable et qu'il faut saluer. Je ne veux citer aucun nom ici, car tous devraient être cités, mais le succès collectif de la troupe de la Comédie française dans cette production est absolument remarquable, et je crois que cela mérite tout à fait d'être salué.
Oui, ceux qui sortent des spectacles de la Comédie française en disant « Ah, elle est enfin dépoussiérée », prouve qu'ils n'y ont pas mis les pieds depuis 15 ans.
Absolument.
Nicole Desjardins.
Oui, moi je vous propose une plongée dans l'imaginaire pur avec le dernier ouvrage d'Haruki Murakami, paru aux éditions Belfond, qui s'appelle « Des hommes sans femmes ». C'est un recueil de 7 nouvelles qui racontent des histoires de couples qui se font et se défont par les femmes. Alors, soit parce qu'elles disparaissent, soit parce qu'elles meurent, soit parce qu'elles mentent. Il y a une nouvelle sur le mensonge féminin qui s'appelle un organe indépendant, qui est l'organe du mensonge que nous avons toutes. Soit, au contraire, elles apparaissent soudainement dans la vie des hommes et elles bouleversent complètement leur univers. Alors, ce sont 7 nouvelles très, très simples, très épurées, très essentielles, parfois qui frôlent le fantastique, comme souvent chez Murakami, un peu kafkaïen, mais qui vous plongent en quelques pages dans un univers totalement différent, totalement exceptionnel. C'est un très grand moment de littérature, des hommes sans femmes.
Merci. Je recommande très rapidement, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir, la biographie de Raymond Poincaré, signée par Georges Valence et parue aux éditions Perrin. Raymond Poincaré est une énigme, parce que au fond, on est assez peu d'hommes politiques aussi, peu susceptibles d'attirer la sympathie, et en même temps, dans l'action, mérite à ce point les actions, je dirais, dans des périodes cruciales, puisqu'il s'agit aussi bien de la guerre de 14 que de la crise économique qu'il a suivie, la crise de la monnaie notamment, et dont l'action mérite à ce point d'être connue et étudiée. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère, il reçoit Pascal Horry, familier de notre antenne, qui est, comme on sait, un historien, et ils vont ensemble parler de Marie-Antoine Carême, le roi des chefs, et le chef des rois. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Jean-Richard Dufour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur cette même chaîne, pour notre commentaire de l'élection présidentielle, dont je vous rappelle qu'elle a lieu en ce moment.